Match canadien sabre ce soir et on va rejoindre à l'instant Patrick Friolet. Salut Pat!
Salut FX!
Juste avant de te parler, parce que tu étais à l'entraînement du Canadien hier, juste avant de te parler de cette séquence qui roule sur les médias sociaux concernant Martin Saint-Louis qui a haussé le ton à l'entraînement, pas le choix de te parler de la nouvelle qui est arrivée hier concernant Kirby Dach, saison terminée, opération au genou droit réussi. Mais encore une fois, c'est le genou droit qui est cop pour Kirby Dach. On posait la question hier dans le retour des sportifs, là, est-ce que c'est une expérience qui est terminée? Est-ce que c'est une malchance? Est-ce que c'est un joueur fragile? C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur lui? Parce que là, il devrait revenir pour le début de la prochaine saison, mais dans le cas de Kirby Dach, on n'a pas le choix de parler d'une des grosses déceptions, à mon avis, chez le Canadien cette année.
Oui, c'est sûr. Puis je pense pas que du jour au lendemain, si il est blessé, ça veut dire que du côté du Canadien, on pense que Kirby Dach ne fait plus partie des plans. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'encore une fois, un jeune de 24 ans qui arrive à un moment névralgique de sa carrière, qui revient d'une longue absence l'an passé avec seulement 2 matchs de jouer, c'était une année très importante pour lui pour confirmer des choses. Puis du côté du Canadien, d'avoir des réponses dans le cas de Kirby Dach. Est-ce qu'on a eu des réponses après 56-57 matchs? Pas vraiment, parce que ben, d'une certaine façon, oui, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas répondu aux attentes. D'autre part, on se disait ben il revient d'une longue absence, c'est normal que son départ soit plus lent. Chose certaine, il n'a pas affiché beaucoup de constance cette année, ça c'est sûr. Il a démontré certaines bonnes choses, mais il n'a pas montré qu'il est capable de vraiment piloter les choses et d'être la locomotive d'un trio comme joueur de centre. Donc à ce niveau-là, c'est là où le Canadien va devoir se poser la question en vue de l'an prochain, parce que là, c'est encore une fois une blessure qui l'hypothèque, qui lui fait rater une longue séquence de matchs le reste de la saison. Puis là, ben l'an prochain, il va y avoir des nouveaux éléments. Ivan Demidov qui va rentrer dans la formation. Est-ce que le Canadien va avoir procédé à des transactions, peut-être signer un joueur autonome? À quoi le portrait va ressembler dans le top 6, dans le top 9? Où Kirby Dach se situe là-dedans? Évidemment, il y a plusieurs interrogations à ce niveau-là, mais chose certaine, pour Kirby Dach, c'est un échec de pouvoir répondre à des questions cette année, parce que dès le départ, on disait Kirby, on le voit comme deuxième centre. Est-ce qu'il est capable de le faire? Je suis pas convaincu. Donc là, c'est là où ça devient difficile pour lui, puis mentalement aussi, là, faut pas se le cacher. Je veux dire, il a jamais été capable de jouer des saisons complètes depuis qu'il est à Montréal. Ça avait été difficile à Chicago aussi avec la blessure qu'il avait eue au championnat mondial junior, grave blessure à un poignet qui a hypothéqué son départ dans la Ligue nationale. Donc, pour lui, là, de jamais être capable de terminer ses saisons, là, c'est la deuxième fois que le genou droit est touché, mais auparavant, il y avait des blessures où il était malchanceux aussi. Bref, c'est clair que c'est frustrant pour Kirby. Il va falloir qu'il garde le moral puis qu'il espère être capable de cocher plus de cases l'an prochain.
Ouais, c'est triste parce qu'il avait connu une bonne première saison à Montréal, 38 points en 58 matchs. On parlait de lui en bien. Il avait connu un bon camp d'entraînement par la suite. Il s'est blessé lors du deuxième match de la saison l'an dernier. Mais quand tu regardes ça froidement, 58 matchs à sa première année, 2 l'an dernier et là 57 saisons terminées dans le cas de Kirby Dach. Et tu parlais de son contrat. L'an prochain sera sa 4e année d'un contrat de 3 362 000 par année. Dans le cas de Kirby Dach, est-ce que tu t'attends quand même? Si les attentes diminuent, parce que là, je sais que les attentes sont hautes parce que c'est un 3e choix total de son encamp, puis on pensait qu'elle allait se relancer à Montréal, mais si on diminue les attentes, est-ce que c'est un gars, à ton avis, qui peut encore s'établir à Montréal à long terme, dépendamment de la saison prochaine?
Ben moi, je n'ai pas perdu espoir avec lui. Je pense que c'est un gars qui est capable d'être un joueur imposant sur la patinoire. Il y en a certains qui se posaient des questions sur Juraj Slafkovský, puis regardez comment il joue depuis quelques matchs. Je ne veux pas comparer parce que Slafkovský n'est pas dans la même étape de son développement, mais dans le cas de Kirby Dach, on a vu des éléments où on trouvait qu'il avait un côté un peu méchant dans son jeu, qu'il était capable de s'imposer physiquement sur la glace. Ça a été plus difficile cette année parce que, dès le départ, peut-être qu'il manquait un peu de confiance, de ne pas avoir vraiment pleinement confiance en son corps puis en ce qu'il était capable de faire sur la patinoire. Puis quand on a senti qu'il était capable de prendre son élan en décembre, il y a eu de bons... alors que le Canadien avait des bons moments, bien lui aussi, ça fonctionnait bien d'une certaine façon, mais en même temps, la production sur papier n'était pas toujours là. Donc, tu sais, Martin Saint-Louis dit souvent, là, les statistiques, c'est une chose, mais est-ce que Kirby Dach se comportait toujours bien? Je pense que défensivement, comme joueur de centre, c'est là où peut-être qu'il y a beaucoup de lacunes pour Kirby Dach. Donc, est-ce qu'on y enlèverait de la pression si on le mettait à l'aile l'an prochain pour commencer la saison, pour gagner en confiance? Il y a plusieurs réponses qu'on va avoir par rapport aux décisions qui vont être prises dans la formation. Mais là, à court terme, on a vu Owen Beck avec Patrick Laine et Alex Newhook qui fait des belles choses. Donc, si on veut voir les choses positivement pour l'évaluation à l'interne, ben, ça va donner une opportunité de voir qu'est-ce que Owen Beck est capable de faire sur une plus longue fenêtre de match. Est-ce que ça va rester comme ça tout le temps d'ici la fin de la saison? Peut-être pas, dépendamment des changements, mais ça change les plans, puis malheureusement, ça nuit au niveau d'évaluation qu'on voulait avoir pour Kirby Dach.
Ouais, puis le temps qu'il se remette de sa blessure aussi va rater beaucoup de temps cet été pour se remettre en forme en vue de la prochaine saison. Au début de l'année, rappelle-toi, il n'y avait pas le meilleur début d'année. Alors, on misait surtout sur « soyons patients » au mois d'octobre, janvier. On va voir le vrai Kirby Dach qui s'est remis d'une blessure au genou. Mais là, c'est la même chose qui arrive cette année. Alors, je ne sais pas, la patience va ressembler à quoi chez les partisans du Canadien en vue de la prochaine saison, mais c'est sa dernière de son contrat de 4 ans quand même chez le Canadien. Quelque chose que j'ai bien aimé hier, Pat, et t'étais à l'entraînement du CH, c'est Martin Saint-Louis qui a monté le ton. Et qui a dit le F-word, wake up, réveillez-vous. Comment t'as trouvé l'entraînement du Canadien hier et as-tu aimé ce que Martin Saint-Louis a fait sur la glace pour tenter de réveiller ses joueurs?
Oui, moi j'aimais ça. J'aimais ça parce que, tu sais, ça serait facile de dire dans une séquence de 5 ou 6 défaites, bon, Martin Saint-Louis s'est impatienté, il est tanné, il a des mauvais résultats. Là, ça se passe après une séquence de 3 victoires. Puis, tout le monde s'entendait dans le vestiaire. J'étais au match contre les Sharks. Ouais. Puis après le match, tous les joueurs, l'entraîneur, personne n'était content de ce match-là. On était content d'avoir gagné. On était content pour Cole Caulfield qui a marqué un gros but. Mais tout le processus des 60 et quelques minutes de jeu que le match a duré, ça a été un match souffrant quand même pour le Canadien parce qu'on a concédé énormément d'occasions de marquer. On n'était pas aussi constant dans notre effort que lors des deux matchs précédents. La transition, c'était difficile. Il y avait plusieurs éléments dans le jeu du Canadien qui étaient difficiles. Puis les Sharks, c'est une jeune équipe qui peut-être, d'une certaine façon, manque un peu de structure. Puis on dirait que ça a compliqué la tâche du Canadien parce qu'il y avait tellement d'énergie dans leur manque de structure que ça devenait un peu de la confusion pour certains joueurs. Puis, à ce niveau-là, ben, à la fin du match, on dit ben c'était pas un bon match. On a mal joué, on s'est mal comporté. Martin Saint-Louis, content du résultat, mais vraiment pas content de la façon dont son équipe a répondu. Donc là, ça se transpose à l'entraînement le lendemain. Puis probablement qu'il a senti que, je veux pas dire qu'il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de leurs affaires, mais peut-être qu'il n'a pas assez senti de sentiment d'urgence ou pas assez d'attention de la part de ses joueurs parce qu'il expliquait des choses dans cet exercice-là. Puis là, il devait sentir une petite hésitation à enchaîner l'exercice parce que c'était... on faisait du 3 contre 3, puis tu as une chance de faire une action. Donc, si tu rates une passe, le coup de sifflet retentit, puis tout de suite, c'est les trois autres qui embarquent. Si tu rates un tir, c'est la même chose. Donc, si tu perds la rondelle, c'est la même chose. Donc là, ça forçait les joueurs à être parfaits dans leur exécution. Puis si tu enchaînes une passe avec un tir, bien là, tu peux prendre le retour. Mais si tu rates la cible, on siffle, on change. Donc là, ça force tout le monde à être engagé mentalement. Puis à ce moment-là, Martin Saint-Louis trouvait qu'il n'y avait pas assez d'engagement visiblement, puis a voulu réveiller ses joueurs. Moi, je trouve ça bon parce que ça ramène les attentes un peu plus hautes. Puis ça fait en sorte que là, on vient d'affronter les Sharks. Est-ce qu'on a peut-être pris ça un peu à la légère en début de match? Possiblement, parce qu'on se disait, bon, on va être capable de battre les Sharks, on est à domicile. Là, on s'en va à Buffalo. Puis il faut avoir un sentiment d'urgence aussi. Je trouve ça intéressant, la façon dont Martin Saint-Louis a réagi avec son groupe pour continuer de les pousser vers le haut et pas laisser les choses aller.
On dira ce qu'on voudra, mais depuis que Martin Saint-Louis a été embauché, il dirige pour gagner des matchs. Et ce qu'on a vu hier à la pratique, c'est exactement ça. Puis le Canadien est dans une position où il a quand même remporté ses 3 matchs depuis le retour du tournoi des Quatre Nations. Mmh. Il y a quand même 2 matchs qui s'en viennent qui sont très accessibles à lui, 2 fois les Sabres de Buffalo. Et la date limite est vendredi prochain. Il reste seulement 3 matchs d'ici là. Et le Canadien est déjà allé chercher 3 victoires là-dedans. Il en reste 3 avant la date limite. Les Sabres 2 fois et les Oilers d'Edmonton. Et Martin Saint-Louis veut vraiment remporter ces matchs-là. Et je pense que les joueurs aussi ont compris le message. Surtout le premier trio du Canadien et le capitaine Nick Suzuki, Patrick, qui, écoute, lors de son retour depuis 3 matchs et 8 points, 2 buts, une passe lors de la dernière rencontre. Nick Suzuki est en mission en ce moment chez le Canadien.
Oui, puis ça va un peu, ça s'inscrit un peu dans ce que tu dis avec la date limite des transactions. On a senti dès le départ au retour de la pause, même si les joueurs ne le disent pas ouvertement, on sent qu'ils veulent prouver quelque chose à l'organisation. Ils savent que le début de saison était difficile, Par la suite, il y a eu une très bonne séquence. Là, par la suite, on a échappé des matchs qu'on n'aurait pas dû échapper, qu'on manquait d'énergie. Là, on revient plein d'énergie, on n'a pas d'excuses. Puis on sent que les joueurs veulent passer un certain message. Regardez simplement comment Josh Henderson se comporte en ce moment. Là. Dans une situation normale, probablement qu'il manquerait une semaine ou deux pour se remettre un peu plus en santé. Mais non, il sacrifie puis il retourne jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'urgence où les joueurs veulent vraiment se rassembler puis prouver des choses. Puis par rapport à Nick Suzuki, moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il est encore plus allumé que d'habitude. Nick Suzuki, c'est un gars qui est très low profile. Puis il dit les choses, il dit les bonnes choses, mais tu sais, quand les choses vont pas, il va le dire, mais il va jamais s'enflammer. Moi, j'ai senti une passion un petit peu plus dans... En anglais, on dit un chip on the shoulder. Tu sais, on sent qu'il est dérangé un peu par le fait que le Canadien n'a pas réussi. Il l'a dit ouvertement, d'ailleurs, que ça a été frustrant pour lui avant la pause. Il a dit que la pause lui avait fait beaucoup de bien mentalement. Puis là, ben, il démontre parce qu'il est vraiment la locomotive là, depuis le début, depuis le retour de la pause dans les trois matchs. Il a été dominant. C'est le Nick Suzuki que tout le monde attend, qui est un excellent joueur. Puis là, ben, il démontre à tout le monde. Regardez les gars, là on est ensemble. Là, je donne le ton, puis tout le monde suit ça un peu. Je trouve ça vraiment intéressant de voir le feu dans les yeux de Nick Suzuki présentement parce qu'il n'accepte pas les demi-mesures. Puis on veut continuer d'aller chercher des gros résultats, puis peut-être prouver des choses à l'organisation. Est-ce que ça veut dire que tout le plan de Kent Hughes et Jeff Gorton va prendre le bord? Non, mais ça aurait l'air fou un peu après 5 victoires de suite de dire on échange Evans, on échange Armia, on échange Dvorak. À un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont se passer à l'interne puis qu'on va peut-être vouloir changer un peu, ajuster le tir un peu plutôt que d'échanger des joueurs pour un choix de deuxième ou de troisième rôle.
Quand même 10e meilleur pointeur chez les joueurs de centre, Pat, depuis le début de la saison, Nick Suzuki, d'avoir des responsabilités défensives, en plus d'être à 50,4% au cercle des mises en jeu, ce qui est très bon, différentiel de plus 7. C'est vraiment un bon premier centre, à mon avis, dans la Ligue nationale. Il est en train de le prouver encore une fois cette année. Et Juraj Slafkovský, qui depuis trois matchs aussi fait un excellent travail. Et on en parlait la semaine dernière de Juraj Slafkovský. On en avait parlé le lendemain. Dans son cas, c'est toujours une question de constance. Est-ce qu'il peut demeurer constant dans l'effort, dans la manière de jouer, de récupérer des rondelles, de jouer physique? Et Juraj Slafkovský a connu trois bons matchs depuis son retour, là.
Ah, Juraj Slafkovský complète à merveille ce trio-là pour l'instant. Lui aussi, il y avait un sentiment d'urgence en revenant. Il a dit ouvertement qu'il voulait vraiment attaquer les choses différemment. J'ai l'impression qu'il a fait de la réflexion, un peu de ressourcement pendant la pause pour revenir en forme. Puis il démonte. Il démonte. En fait, il sert finalement de son gros physique pour aller gagner des rondelles dans le fond du territoire. C'est pas un joueur qui est là pour déjouer deux, trois joueurs sur la patinoire. Il faut qu'il utilise son physique, il faut qu'il se présente au filet. C'est comme ça qu'il va avoir du succès dans la Ligue. Puis il faut qu'il bouge ses pieds. Souvent, on le voyait arrêter sur le bord de la patinoire en attendant de faire une passe à quelqu'un. Puis là, ben, il commet un revirement. En plus de commettre un revirement, il est arrêté. Il n'est pas capable de s'impliquer dans le repli. Donc, Slaf connaît vraiment joue du gros hockey présentement. Puis Suzuki, ben, un peu la même chose. Puis, tu sais, ce qui est toujours impressionnant dans le cas de Suzuki, tu le dis, là, il joue comme un vrai premier centre. Puis, il a toujours fait ça depuis quelques années en n'ayant personne qui l'appuie vraiment derrière lui, offensivement. Si on regarde le deuxième, les troisième, les quatrième trio, ça vient par vague, mais on n'a pas un vrai deuxième centre qui est établi derrière lui. Puis, malgré tout, il figure dans le top 10, comme tu le dis, pour les joueurs de centre dans la Ligue au niveau de la production. Il est là, il se présente à tous les matchs, il est constant dans son effort. On regarde toujours de haut Nick Suzuki en disant « Mort, c'est-tu vraiment un premier centre? » Ben oui, c'est un premier centre. Puis il se comporte vraiment de cette façon-là, puis il est encore en train de le prouver présentement.
Ouais, puis je regarde son temps de glace lors du dernier match, 22-07 contre les Sharks. Mais les deux matchs d'avant, là, contre les Sénateurs et les Hurricanes, on parlait de 16-15 de temps de glace et 17-20. Là. Mm-hmm. Alors, c'est pas un temps de glace super élevé. On a pu quand même équilibrer les trios, donner du temps de qualité à chacun des quatre trios qui formaient le Canadien. Là.
Ben, c'est ce qui fait la différence quand on a un niveau de constance qui est affiché par tout le monde sur la glace. Puis c'est dans toute la belle séquence où le Canadien a gagné 13 matchs sur 17. Ouais. C'était ça qu'on avait de la part du Canadien. On avait le trio d'Anderson, de Dvorak, Gallagher qui contribuait. On avait le trio d'Evans qui fonctionnait bien. On avait Laine qui marquait des buts en avantage numérique. Bref, tout le monde amenait son épaule à la roue. Puis quand ça arrive comme ça, puis que tout le monde affiche « je joue de la bonne façon », ben Martin est capable de bien distribuer le temps de jeu. Par la suite, ben là, le dernier match, ça a été un match où justement on courait tout le temps après le pointage. Justement, Arber Jacky a souffert de ça en troisième période. quand on est constamment obligé de mettre nos meilleurs éléments sur la glace pour aller générer de l'attaque, bien, c'est sûr que ça les expose. Pour un match, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, sur 2, 3, 4, 5 matchs, bien, on va perdre plus souvent qu'on va gagner si on est obligé de toujours jouer des joueurs davantage.
Comment tu sens l'ambiance dans le vestiaire cette semaine, Pat? Est-ce que tu sens que les gars sont en mission parce qu'il reste 3 matchs jusqu'à la date limite, puis on veut amasser le maximum de résultats pour éventuellement forcer la main de Kent Hughes à vouloir garder les gars comme Jake Evans ou Yoel Armia? Comment tu sens la chimie dans le vestiaire? Comment ça se passe à l'interne?
Bien, on le sent. On le sent comme ça, là, comme tu dis. Puis comme je le disais tantôt, je pense que les joueurs ont une motivation en revenant de la pause de prouver des choses. Puis on le voit dans leur langage corporel. Les gars sont sérieux. Ils ont toujours été sérieux depuis le début de la saison, mais là, je sens un petit élément de plus. T'sais. Puis Cole Caulfield le disait aussi après le match contre les Sharks. Écoute, on regarde le classement tous les jours. On le sait à quel point ces matchs-là sont importants. Puis tout le monde le sait dans le vestiaire à quel point le début de saison aurait jamais dû être comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent « Je peux pas croire qu'on va sacrifier des joueurs ». À cause du début de saison, entre guillemets, merdique qu'on a eu chez le Canadien, alors qu'on n'a vraiment pas répondu aux attentes à ce moment-là. Donc, je pense que d'une part, il y a un sentiment où on est fâché d'être dans cette position-là parce qu'on a l'impression qu'on devrait être plus haut au classement. Puis, malgré tout, ben là, le Canadien réussit à avoir des bons résultats dernièrement, mais on voit à quel point c'est difficile. On voit à quel point, malgré 3 victoires de suite, on a fait du surplace au classement. Donc, c'est là où les matchs deviennent tellement importants. Puis d'aller jouer 2 fois en 3 jours contre les Sharks, contre les Sabres de Buffalo, ouais, ça devient indispensable puis incontournable de gagner ces matchs-là. Tu peux pas te permettre, si tu es sérieux dans ta démarche, d'aller perdre ce match-là. Si tu perds mercredi prochain à Edmonton, bien là, on pourra dire on s'est déplacé, on a du voyagement, blablabla. Ça va peut-être être plus difficile. Les Oilers aussi ont une séquence où c'est moins à leur goût, ouais, donc vont être motivés de battre le Canadien. Mais les 2 matchs contre les Sabres, il faut aller les chercher. Puis il faut prouver qu'on veut vraiment passer un message puis continuer d'être dans la course.
Ouais, les Oilers ont 5 défaites consécutives. Depuis qu'ils sont revenus, ouais, je pense, de la pause du tournoi des 4 nations, je pense que c'est 3 ou 4 défaites pour les Oilers d'Edmonton qui accordent beaucoup trop de buts. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire d'ici la date limite des transactions à Edmonton. Si on va tenter d'aller chercher un autre gardien de but peut-être pour épauler Stuart Skinner et donner beaucoup de répétitions aux gardiens qu'on va aller chercher. Mais pour le Canadien ce soir, un à qui on donne le filet, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu devant le but du Canadien, c'est Jakob Debeche. Premier départ, Pat, depuis le 9 février pour lui. On en parlait un peu cette semaine de savoir Jakob Debeche, on ne lui donne pas de répétition, c'est quoi la meilleure solution pour lui. Mais là, il sera là ce soir. Et autant qu'il a été excellent ses premiers matchs dans la Ligue nationale, ça a été plus difficile pour lui dernièrement.
Oui, puis en même temps, je parlais de fraîcheur tantôt puis du retour de la pause pour les joueurs. Pour Jakob Debeche aussi, il faut qu'il ait été en mesure de bien utiliser ce repos-là. On espère qu'il va être capable d'entrer dans l'action puis de livrer la marchandise. Parce que pour Montembeau, il a joué quand même 3 matchs depuis samedi dernier. Là, c'est une opportunité pour Debeche d'entrer dans la mêlée. Ça fait quand même depuis le 9 février qu'on ne l'avait pas vu. Le dernier match, c'était contre le Lightning. Le dernier match avant la pause, justement, pour la confrontation des 4 nations. Il a alloué 3 buts sur 8 tirs. Donc là, c'était pas des moments où ça allait bien pour lui. Donc, ça va être intéressant de voir cette énergie-là. Un Jakob Debeche, j'espère, qui va nous remontrer les beaux moments qu'il a connus à son entrée dans la LNH. Puis, je suis convaincu que les joueurs vont bien se battre devant lui pour bien protéger les choses. Puis, pour compléter là-dessus, par rapport au jeu défensif devant lui, j'ai vraiment hâte de voir la réponse d'Arber Jacky ce soir. Parce que, en lui parlant hier, j'ai l'impression que oui, ça l'a dérangé, mais en même temps, il comprend. Il comprend les choses. Il comprend qu'il n'a pas livré le meilleur effort. Il y a eu beaucoup de communication avec Martin Saint-Louis. Il y a eu de la communication avec Stéphane Robidon. On les a vus avoir des bonnes discussions. Puis je pense qu'un gars comme lui va vouloir se présenter puis connaître un très gros match. Je pense que on va voir une bonne version d'Arber Jacky parce que je trouve que c'est une belle maturité qu'il est allé chercher. Ou plutôt dans sa carrière, quand il se retrouvait à Laval, on sentait que oui, il était plus ou moins satisfait, mais on sentait pas qu'il y avait la maturité dans sa tête de dire « OK, voici ce que j'ai mal fait, voici ce que je suis capable d'améliorer ». Là, finalement, je pense que l'auto-évaluation s'est grandement améliorée pour lui, puis il est capable vraiment d'aller chercher une vitesse supérieure. Puis j'ai hâte de voir parce que je pense qu'on va vraiment lui donner l'opportunité de rebondir ce soir, puis qu'il va démontrer qu'il est capable de le faire.
Dans le cas d'Arber Jacky, des propos plein de maturité. Là. Il a affirmé qu'il a commis des erreurs défensives lors du dernier match, mais il comprend la décision de Martin Saint-Louis. Et j'ai beaucoup aimé les explications de Martin Saint-Louis aussi en point de presse après le match, qui expliquait pourquoi Harbour n'a pas vu d'action en troisième période et tout ça. Alors j'ai bien hâte de voir comment il va rebondir ce soir. Pat, en terminant, prédiction pour le match de ce soir? Victoire du Canadien, une quatrième de suite ou les Sabres vont l'emporter?
En quatrième victoire de suite du Canadien, je pense qu'ils sont trop sérieux dans leur approche en ce moment. Puis j'ai aimé comment ils ont réagi à l'entraînement, comment ils ont parlé. Maintenant, il faut que, comme on dit, les bottines suivent les babines. Mais je m'attends à une victoire convaincante. Un 4-1 Montréal, pourquoi pas.
Mais en festival offensif peut-être. Les deux matchs entre les deux équipes cette saison, le Canadien l'a emporté 7-5 et 6-1, si je ne m'abuse, avec un taux du chapeau de Patrick Laine en avantage numérique. Ça, c'était le dernier match Canadien-Sabre. Pat, un gros merci pour ton temps. Greg revient en force demain, alors c'est ma dernière avec toi aujourd'hui, mais je veux te remercier pour le temps que tu m'as alloué durant l'émission Tailgate Weekend et on se reparle très bientôt, mon ami.
Mais ça a été un plaisir, FX. Tu as fait du super travail. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pat. Salut.
À bientôt.
Patrick Friolet qui mettait la table pour le match Canadien-Sabre.